Gilbert Sept, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur d'économie à Neoma Business School. Vous avez coécrit Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique chez Odile Jacob. Jérôme Dédéon, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Assuré de tout sur mesfinances.com. Associé, j'ai dit assuré, je crois. Président de Mon Partenaire Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Et Jean-Hervé Lorenzi, bienvenue. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du Cercle des économistes, président de l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous avez coécrit La Grande Rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter chez Odile Jacob. Encore un chèque. Un chèque de 50 euros qui sera versé en une fois, nous dit Le Parisien aujourd'hui en France. C'est une information de presse, mais qui est quand même bien renseignée. Uniquement pour les abonnés au transport du quotidien, les Transiliens, les TER, donc pas le TGV. Avec un niveau de revenu, alors on n'a pas le niveau de revenu, est-ce que les classes moyennes seront incluses ou pas ? Il s'agirait de 50 euros, payés directement par le Trésor et pas par les régions, pourtant, qui gèrent ces trains du quotidien. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme Dédéon ? Moi, j'ai dit ce matin que, finalement, on avait eu... du quoi qu'il en coûte 2020-2021 et qu'on était en train de le recycler en bouclier tarifaire, en bouclier anti-inflation 2022-2023.
Ben oui, en fait, je pourrais vous prendre l'angle, ça sous l'angle est-ce que ça choque mon côté libéral ? La réponse est oui, puisque on est dans la poursuite d'une espèce d'étatisation de la vie des gens,
oui.
Absolument considérable avec de l'argent public. On peut discuter de savoir s'il y aura des frottements, des faits d'agence et ainsi de suite. Donc c'est toujours compliqué d'accepter que l'État va finalement subventionner l'intégralité de notre caddie au supermarché. On peut aller jusque-là et dire à la fin de la journée, le prix du beefsteak est le même pour tout le monde, quel que soit son salaire ou ses revenus, parce qu'on veut que tout le monde puisse consommer exactement la même quantité de choses et on va s'occuper en redistribuant de faire ça. Donc on peut prendre le truc sous cet angle-là et de ce côté-là, ça me choque un peu sur le principe. Après, par rapport aux autres chèques qu'on a vécu en grand nombre depuis le début de cette crise, c'est finalement un chèque qui a l'air d'être un poil plus intelligent que les autres pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il cible quand même, il n'est pas universel.
Celui-là, il est ciblé.
Les ménages
oui.
les plus modestes, et d'une part, et deuxièmement, il a l'air de dire qu'on est en train de... Enfin, il est à peu près cohérent avec nos objectifs de transition écologique, puisqu'il subventionne plutôt les transports en commun, a priori moins émetteurs de CO2. Ça, j'ai quand même un problème d'exclusion des gens travailleurs modestes qui ont besoin de faire 80 km en voiture dans les campagnes pour aller travailler, et qui, eux, sont a priori exclus de cette mesure, puisqu'ils n'ont pas de transport en commun qui leur permet d'aller travailler. Et ça, c'est un vrai sujet, puisque au fond, on paye avec des mesures comme ça, l'absence d'une réforme territoriale et de revitalisation de nos territoires.
Oh, on n'a pas élargir le sujet
depuis 40 ans.
Voilà. Vous élargir le sujet sur toutes ces problématiques.
Mais, exactement.
Jean-Hervé Lorenzi.
Non, juste une remarque par rapport à ce que vient de dire Jérôme. Je suis évidemment en désaccord absolu avec ce qu'il vient de dire.
Ah, mais alors
pourquoi ? Parce que le sujet, je ne sais pas si cette mesure est bonne ou non, mais en réalité, l'alternative à ce qu'on voit, c'est-à-dire cette prise en charge des revenus, et notamment pour les revenus les plus faibles, c'est une l'alternative, c'est en réalité une sorte de ce qu'on pourrait avoir, une véritable mécanisme d'inflation, c'est-à-dire que c'est sur les revenus primaires, sur les salaires, qu'on verrait les salaires grimper de la même manière que l'inflation. Donc au fond, on a deux pistes, c'est d'ailleurs pas vraiment décidé. L'une qui est celle de retrouver un mécanisme inflationniste extrêmement dangereux, c'est-à-dire indexation, je parle sous le contrôle.
Oui, le fameux effet de second tour dont on a souvent
c'est
parlé.
C'est ça le sujet, où en réalité, ce à quoi on assiste, c'est-à-dire, ça n'est pas le cas, et comme il y a quand même des gens qui perdent pas mal d'argent, eh bien, on a un transfert plutôt du côté des pouvoirs publics. Il y a deux solutions, aucune des deux n'est parfaite, mais entre les deux, il faut choisir.
Le patch temporaire qu'on peut éventuellement débrancher me semble éminemment préférable à laisser la boucle inflation salaire se développer. Je suis évidemment d'accord.
Ah, d'accord, ben voilà.
Je vais vous faire réagir, Gilbert Sept, parce qu'on avait une discussion et qui va parfaitement dans la continuité de ce que disait Jean-Yves Lorenzi. Il y a Gaulle Volant qui m'écrit chèque vélo, transport, énergie, prime d'activité. Pourquoi l'État ne nationalise-t-il pas directement toute l'économie ?
Un peu ce que vous...
Oui. Non, mais c'est ce qui m'a poussé à dire de manière un petit peu provocatrice que c'est une quasi sixième branche de sécu où le pouvoir d'achat devient un acquis social. Alors effectivement, ça évite la boucle prix-salaire, ça évite la vraie inflation au sens des bouquins d'économie.
Et on découvre en même temps que Mme Truss est en réalité membre du Parti Socialiste des Travaillistes britanniques, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc moi j'adore les critiques, mais...
Il n'y a pas d'autre
solution. Quelles sont les solutions ?
Alors, on verra. Je vous ferai réagir aussi à ce qu'a dit Gabriel Attal sur les barèmes de l'impôt sur le revenu. On a choisi une voie, il y avait une alternative, disait Jean-Hervé Lorenzi. On en a choisi une, c'est d'éviter l'effet second tour, Gilles Berset. Oui. Je sais que vous avez une analyse qui est un peu dérangeante.
D'abord, juste pour réagir sur le chèque, il est clair que face à un prélèvement extérieur, on paye plus cher nos importations d'énergie, okay. Les gains de productivité sont nuls, peuvent pas absorber ce prélèvement sur le pouvoir d'achat. On va connaître, en France comme dans les autres pays, une baisse du pouvoir d'achat moyen des ménages par unité de consommation.
Bien sûr.
L'alternative pour l'État, c'est de savoir quel ménage va connaître cette baisse de pouvoir d'achat. Quel ménage, temporellement, c'est-à-dire, est-ce que c'est maintenant ou est-ce qu'on lègue ça à nos enfants par de la dette publique? Et quel ménage entre riches et pauvres, etc. Bon. Du côté de... Sur le deuxième point, et je reviendrai peut-être sur le premier, mais sur le deuxième point, riches et pauvres, il est clair qu'une augmentation des prix de l'énergie frappe plus durement les ménages en bas de l'échelle des revenus. Donc, de ce point de vue-là, une intervention publique est tout à fait légitime. Je fais une petite nuance par rapport à ce qui a été dit précédemment. C'est tout à fait logique, le pouvoir d'achat est plus heurté par une augmentation des prix de l'énergie pour les bas revenus que pour les hauts revenus. Alors, un chèque maintenant énergie a les avantages qui ont été évoqués, c'est ciblé, c'est cohérent avec
chèque
nos objectifs...
Un chèque transport, pardon.
C'est cohérent avec nos objectifs climatiques, ça revient moins cher, c'est compatible avec le fait que tôt ou tard, il va bien falloir encaisser une baisse du pouvoir d'achat, c'est clair. Néanmoins, ça ne baisse pas l'inflation. Et ça, il faut l'avoir en tête. Contrairement au bouclier tarifaire, contrairement à la ristourne sur l'essence, c'est pas une mesure générale, c'est une mesure ciblée. Mmh. À partir du moment où c'est une mesure ciblée, ça n'abaisse pas le niveau de l'indice des prix à la consommation et donc l'inflation. Et du coup, si ça se substitue à une partie du bouclier tarifaire ou à la ristourne...
Ça s'ajoute, hein, là, visiblement. La ristourne,
ça s'ajoute avec
est censée s'arrêter fin 2022.
Avec un redimensionnement du bouclier qui est encore... d'ailleurs, c'est bien les 15% de hausse des prix qui sont annoncés du fait de la baisse de dimension du bouclier tarifaire. Donc du coup, on a un choc à la hausse sur l'inflation. On passe d'une mesure générale qui baisse l'inflation à une mesure ciblée qui ne baisse pas l'inflation,
d'accord,
qui
Gilbert, compense les ménages. Ça fait des semaines que tous les économistes disent qu'il faut cibler. Alors maintenant,
évidemment, mais
à côté, on n'est jamais content.
Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les dispositions qui ont pour l'instant protégé en partie les ménages français d'un gros choc inflationniste. Hein. Je rappelle qu'aux Pays-Bas, par exemple, l'inflation, c'est 13,5%.
Oui, c'est ça, j'allais vous dire 12.
Mais... 13,5%, vous voyez, quand chez nous, pour comparer avec un indice comparable,
6.
L'indice harmonisé, 6,5.
Harmonisé, France, c'est comparable au niveau européen.
On est vraiment bien en dessous. On est bien en dessous, en bonne partie, du fait de ces dispositions.
Oui, on est d'accord.
Mais on ne peut pas s'en gargariser. Pourquoi on ne peut pas s'en gargariser ? Parce que tôt ou tard, on sera au-dessus. On sera au-dessus en termes d'inflation des autres pays de la zone euro quand ces dispositifs seront redimensionnés, voire supprimés ou bien ciblés. Vous voyez, quand ces dispositifs...
Vous dites qu'on est en train de payer pour attendre.
On est en train de payer pour lisser.
Pour lisser.
Alors, la question qui se posera un jour, c'est de savoir si le mieux obtenu par ce lissage valait les quelques dizaines de milliards d'euros qu'on a consentis pour ce lissage. Pour donner un ordre de grandeur, pour l'instant, le coût du bouclier tarifaire, pour l'instant, c'est à peu près 7 budgets annuels du CNRS. 7 budgets annuels du CNRS. Bon, est-ce que pour le long terme de la France, c'est le meilleur des... J'en sais rien.
Enfin, ce que vous venez de m'expliquer, Gilles Berset, c'est que vous en savez quelque chose, car c'est reculé pour mieux sauter.
En tout cas, tôt ou tard, on se payera ça. Et nous serons plus en France que les autres pays exposés au risque inflationniste.
Gilbert a parfaitement raison quand il l'indique au début que ce qui est plus intéressant, c'est ce qui va se passer dans les 5-10 ans qui viennent. Évidemment, le pouvoir d'achat, globalement, va baisser pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, y compris la prise en charge, évidemment, de tout ce qui est décarbonation. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui va payer. Est-ce qu'on a intérêt à, j'allais dire, essayer de faire payer le, je dirais, les revenus les plus élevés ou les patrimoines les plus élevés. Et vous verrez qu'on va revenir sur, sous une forme ou sous une autre, des impôts qui se rapprocheront de l'impôt sur le capital partout dans le monde, hein. Pas particulièrement en France, partout.
Vous êtes en train de me dire que vous imaginez qu'une forme d'ISF va revoir le jour?
On verra bien, mais il va y avoir en tout cas des prélèvements. Ou est-ce que, et à ce moment-là, on essaie de protéger ceux qui ont des revenus les plus faibles. C'est un équilibre qui permet, alors je relance Gilbert sur un terrain qui lui est particulièrement connu. Est-ce que, quel est le mécanique sur les 5-10 ans qui viennent qui permet d'avoir en réalité de relancer les gains de productivité et d'avoir de la croissance? C'est ça qui compte au fond.
Les gains de productivité, c'est là que personne ne comprend après, aujourd'hui. Hein.
Oui,
Lorenzi, pourquoi on en est avec des gains de productivité si inexistants?
On a maintenu dans l'emploi des et on a même créé beaucoup d'emplois dans des secteurs qui sont des secteurs à faible, très faible productivité. Mais là, bon. Deuxième sujet juste sur les 50 euros, très franchement, c'est pas la fin du monde et c'est pas de l'ordre du, c'est pas le même ordre de grandeur. Il y a combien mettons qu'il y ait 5 millions de ménages qui vont être concernés.
Minimum oui, 5 à 6 5. Qui correspondent au chèque énergie d'aujourd'hui. Plus. Et puis peut-être
mais
davantage.
On passe peut-être à 12, mais...
Oui, mais regardez, si on prend mars 2020, on a mis une perfusion intégrale avec un État assureur en dernier ressort sur les aléas de la vie. Fin 2023, on en sera à 3 années comme ça. Quand vous avez mis 3 années comme ça, vous avez créé une dépendance qu'il est difficile de lever.
Absolument.
C'est quand même très compliqué. J'ai des réactions, je voudrais vous poser une question juste après. Victoria m'écrit, si je comprends bien, on escompte casser l'inflation avec des mesures inflationnistes et en général de la dette qui nous coûte de plus en plus cher, ça ne sent pas très bon. Et Nathalie, mais non, c'est pas assez. Jérôme Dédéian, j'avais une question à vous poser du coup. Parce que Gabriel Attal, hier sur CNews, nous dit on a réindexé le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, ce qui évite à certaines personnes de tomber dans l'imposition sur le revenu, ou d'autres de payer plus d'impôt sur le revenu, parce que leur revenu aurait augmenté et que le barème serait resté inchangé. Ils disent que ce sont 6 milliards 200 millions d'euros que les contribuables qui payent l'IR n'auront pas à débourser en plus en 2023. On est en train de se dire qu'il faut aider les plus pauvres. Est-ce que ce n'était pas le moment de dire, qui va payer? La question a été posée depuis le début de cette émission. Effectivement, les gens qui ont le plus vont payer un peu plus en 2023 parce qu'eux le peuvent. Et donc, on ne va pas leur réindexer le barème sur l'impôt sur le revenu.
Oui, mais ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous ne touchez pas au barème, vous vous retrouvez avec des gens qui vont rentrer dans l'impôt. Si vous décidez qu'on garde quand même une forme de proportionnalité dans notre impôt progressif, je préfère le mathématicien de base, la bonne décision, c'est évidemment de commencer à réévaluer le barème au fur et à mesure que le coût de la vie augmente.
C'est la cohérence économique.
Sinon, vous revenez... Le choix politique
aurait pu être différent.
Moi, j'ai pas de problème avec l'idée que dès qu'on a des revenus, on paye l'impôt, même de façon extrêmement modeste. Alors, il y a un sujet de logique de recouvrement, de coût de recouvrement par rapport à ce que ça rapporte.
62 euros le recouvrement dernier. Voilà.
Fondamentalement, j'ai un problème philosophique avec le fait qu'on puisse être citoyen et pas être dans l'impôt si on a des revenus modulo.
Ils le sont,
voilà. Le CSG,
la CSG,
tout le monde tous les Français payent pas l'impôt est une vision quand même.
Ils payent pas tous les impôts, mais je suis d'accord.
Non, on parle de l'impôt sur le revenu, payé par 48%.
Spécifiquement sur l'impôt sur le revenu, si on veut être cohérent, et si on dit on a fait tout ce travail pour exclure de la base de l'impôt sur le revenu un certain nombre de ménages les plus modestes, et c'est quand même, si je sais compter, à peu près la moitié de la population aujourd'hui, un peu plus que la moitié de la population, si vous réindexez pas le barème, vous remettez en cause cette logique qu'on a eue d'exclusion de l'impôt sur le revenu.
Oui, mais on aurait pu faire un choix.
De gens dont on dit, leur contribution citoyenne est supérieure, elle se fait sur leur consommation.
On peut réindexer on peut regarder un petit peu le dispositif de manière à ce qu'on ne réintroduise pas les très faibles revenus.
Alors on aurait pu tripatouiller les barèmes.
À titre personnel, j'en suis personnellement très heureux.
Heureux de quoi ?
Je trouve que très heureux du fait qu'on ait réévalué les barèmes. Je pense que c'est absolument contradictoire avec cette idée qu'on protège. De toute façon, il va bien falloir payer à un moment ou à un autre. Les dépenses complémentaires.
Non, mais je fais une remarque de gros gauchiste, mais on pourrait plus considérer qu'en 2023, choix politique, on tripatouille la première tranche pour éviter les effets d'entrée.
On est
déjà le pays taux de prélèvement le plus élevé des 39 pays de l'OCDE.
Jean-Hervé vient de nous annoncer que les prélèvements, un jour ou l'autre, allaient monter.
Premièrement. Deuxièmement, on est sans doute l'un des pays, sinon le pays de l'OCDE, dans lequel le taux de prélèvement marginal est le plus élevé.
Oui.
Et dans lequel la progressivité est la plus forte, la progressivité des prélèvements est la plus forte. Moi, je prendrais la question dans l'autre sens. Il faudra baisser les dépenses.
Ah bah.
C'est-à-dire la soutenabilité des dépenses publiques. C'est pas par l'impôt qu'il faut l'envisager. C'est par les dépenses. On est aussi le pays qui dépense le plus en termes de points de PIB. Et les dépenses, eh bien, il faut les regarder. Alors, on demande toujours, ah oui, mais quel poste ? L'armée, la police, l'enseignement ? Ben non, il y a des postes
c'est qui juste coûtent, le contraire qui se passe, très cher. On vient d'apprendre hier qu'on mettait 7,5 milliards de dépenses supplémentaires non prévues fin août dans les dépenses d'État en 2023.
Il y a des postes qui coûtent très cher en France et qui peut-être pourront un jour être réduits.
Combien
je pense, entre autres, les dépenses des collectivités locales. Je veux dire, on a fait le pari... sur les trois dernières décennies, gouvernement de gauche, gouvernement de droite, d'augmenter la dépense publique de façon contrôlée par un contrôle des salaires et par des embauches assez fortes, entre autres dans les collectivités. Bon, un jour, il faudra bien revenir là-dessus.
Gilbert, tu as bien traité successivement les dépenses et les recettes. Sur les dépenses, on est mille fois d'accord. Mais l'un n'empêche pas le fait que, quoi qu'il arrive, les dépenses dans les années qui viennent dans tous les pays du monde vont augmenter, y compris parce qu'on va vouloir décarboner, parce qu'on va vouloir produire sur place, parce que ceci, parce que cela. Et donc, comme il va bien falloir se répartir le fardeau, je trouvais que c'était pas idiot, en tout cas plus cohérent, qu'on essaye aussi de peut-être augmenter les tranches les plus élevées de l'impôt sur revenu. De toute façon, ce sera le cas dans tous les pays.
On clôt le sujet.
On est sans doute le pays dans lequel le prélèvement marginal est le plus élevé.
L'impôt sur le revenu n'est pas en France. On paye beaucoup de charges.
Si tu ajoutes la CSG, on est à plus de 55%.
La CSG,
on est à plus de 55%.
Non, d'accord.
C'est toi qui disais tout à l'heure que c'est un prélèvement sur le revenu.
On parle toujours du prélèvement supplémentaire avant de parler de la réduction de la dépense. Et donc, c'est vraiment le sujet. Et ça, c'est vraiment le mal français.
Pourquoi ne pas.
On n'y arrive pas.
Pourquoi ne pas financer les dépenses climatiques par une réduction de la dépense ? Je veux dire, pourquoi envisager forcément, avec un réflexe bien français, une augmentation des prélèvements ?
Alors, personne n'ose aujourd'hui avancer des hausses de prélèvements. Ce qu'on nous explique, c'est que la vraie réforme des retraites permettrait de créer les économies qui permettent d'aller financer
déjà,
la
production.
Mais certains considèrent que ce ne sont pas des économies sur les retraites qui ont vocation à être recyclées en financement de la transition verte.
Surtout avant que ça donne l'équivalent de ce qu'on peut souhaiter. Mais juste avant,
on va devoir marquer une pause.
Le sujet est double. Il est que nos dépenses sont trop importantes et par ailleurs, qu'elles pose un problème aujourd'hui d'efficacité, que ce soit sur la santé. Donc, le vrai, semble-t-il, le vrai sujet, avant que tout de suite on lève le drapeau, la baisse des dépenses, c'est l'organisation même de nos dépenses. Oui. C'est pas la RGPP qui avait lancé Sarkozy, qui a changé les choses. Il faut modifier l'organisation à la base de nos systèmes de dépenses.
Il y a Economaniac qui m'écrit: bonheur d'entendre Gilles Berset nous dire que par des mesures ciblées, l'inflation va remonter et donc les minima sociaux avec le SMIC. Vous avez écrit dans Telos, la démonstration brève que vous nous avez faite tout à l'heure, avec les mesures que nous mettons en place, nous ne faisons que gagner du temps avant le jour où l'inflation française dépassera celle de nos voisins.
Oui, et avec un risque bien français, sur lequel je reviendrai si vous le voulez bien, qui est notre système d'indexation du salaire minimum, qui peut présenter des dangers particuliers.
Vous êtes, je le rappelle, président du groupe des experts sur le SMIC. On marque une pause. Dans un instant, je vous demanderai ce qu'on peut faire en termes de partage de la valeur en urgence, parce qu'Olivier Dussopt nous annonce que dès le budget, là, il y aura des nouvelles mesures de partage de la valeur. Et puis, est-ce que les Britanniques sont en train de nous donner une leçon ? Une leçon qui veut qu'il y a la demande d'un côté, mais il ne faut pas oublier l'offre dans le moment que nous traversons, qui est quand même avant tout un choc d'offre, avant d'être un choc de demande. À tout de suite.